Laudetur Jesus Christus.
Un marché unique de la défense se dessine dans l'Union européenne au lendemain de la parution du livre blanc pour l'armement. Les 27 étaient réunis en conseil ce jeudi à Bruxelles pour discuter entre autres du nouvel aide d'urgence à l'Ukraine. Le maire d'Istanbul en appelle à la nation après son arrestation. Deuxième soir d'affilée de rassemblement devant l'hôtel de ville de la capitale économique turque, essentiellement des étudiants des universités. Une migration en sens inverse, conséquence de la politique migratoire américaine. Nombreux sont les réfugiés d'Amérique latine à retourner dans leur pays d'origine. Reportage sur ce phénomène. Protagoniste sur le sujet de l'intelligence artificielle, le Saint-Siège appelle à en réguler l'usage pour protéger les enfants. Une conférence vient de s'ouvrir à l'Académie pontificale des sciences avec des experts du monde entier. Explication dans ce journal.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonsoir. Une messe en communion avec le pape François pour sa guérison. Elle vient de débuter à Rome à 18h, actuellement présidée par Mgr Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, en présence de plusieurs ambassadeurs européens près le Saint-Siège. En ces temps de fragilité, le pape sert l'Église et l'humanité de manière non moins efficace, même si sous une autre forme, a souligné l'archevêque britannique. Et ce matin, le cardinal Turkson célébrait une messe similaire, entourée d'ambassadeurs africains accrédités au Vatican. Les fidèles de Rome ou de passage dans la ville éternelle peuvent eux se retrouver à 19h30 ce soir, place Saint-Pierre, où le chapelet sera présidé par l'archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, Mgr Vincenzo Zani. Et pas de bulletin médical attendu ce soir ni demain au regard de la stabilité de la santé du pape. Nouveau point la semaine prochaine. Aucune décision n'a encore été prise par le Vatican concernant les célébrations de la Semaine Sainte dans un peu moins d'un mois. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour leur sommet de printemps. Des discussions encore dominées par la guerre en Ukraine, avec une intervention par visioconférence de Volodymyr Zelensky qui a appelé les Européens à ne pas baisser la garde devant Vladimir Poutine. Mais le point saillant à l'ordre du jour est donc le besoin d'une nouvelle aide d'urgence à l'Ukraine. À Bruxelles, Pierre Benazé.
La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a mis sur la table un plan pour remplir l'objectif que les Européens ont officiellement fixé, à savoir permettre à l'Ukraine d'arriver à une éventuelle table de négociation en position de force. Elle l'a répété, l'urgence est de remplir les soutes à munitions de Volodymyr Zelensky. Sur la table ce jeudi, elle demande aux 27 de mettre déjà près de 5 milliards d'euros en munitions. La Commission veut par ailleurs créer un marché unique de la défense pour que l'industrie européenne puisse répondre à toutes les commandes. Elle propose aux 27 d'arriver à rien moins que 800 milliards d'euros de dépenses de défense d'ici 2030. La Commission propose une série de pistes avec pour objectif que l'Union soit prête en 2030 pour combler les manques capacitaires pays par pays. Défense antiaérienne et antimissile, système d'artillerie, drones, guerre électronique. La Commission a recensé tous les domaines où les Européens doivent se prendre en main pour en fait remplacer les capacités pour lesquelles ils sont pour certains totalement dépendants des États-Unis. On peut évoquer par exemple les catapultes pour porte-avions ou encore le transport tactique par air et le ravitaillement en vol. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Face à ce réarmement européen, la réaction russe ne s'est pas fait attendre. Le Kremlin dénonce aujourd'hui des plans de militarisation du vieux continent. Les équipes de Vladimir Poutine se consulteront, elles, avec des responsables américains lundi prochain à Riyad. La Russie ayant fixé à ses exigences pour toute trêve, acceptant uniquement un moratoire de 30 jours limité aux cibles énergétiques qui n'a pas freiné les attaques aériennes. La Maison-Blanche cherche de son côté à obtenir un cessez-le-feu en mer Noire. En Turquie, l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, hier matin à l'aube, continue d'avoir des répercussions à travers le pays. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier et aujourd'hui dans les plus grandes villes turques. Ekrem İmamoğlu, le principal rival du président Erdogan, est toujours en garde à vue. Son audition n'a commencé qu'aujourd'hui. Il devrait ensuite être présenté à un juge. Dans les rues de Turquie, ses très nombreux soutiens réclament sa libération. À Ankara, Anand Lower.
Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon et dans de nombreuses autres villes à travers la Turquie. Depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, en dépit d'une interdiction officielle des rassemblements, les manifestations se multiplient, parfois sporadiques, parfois massives, comme celle qui a eu lieu mercredi soir devant la mairie d'Istanbul et doit se reproduire tous les soirs de la semaine. Les étudiants de certaines grandes universités sont très mobilisés, mais la plupart des rassemblements sont organisés à l'appel du CHP, le parti d'Ekrem İmamoğlu. L'arrestation du maire de la plus grande ville turque suscite beaucoup de colère. Elle est comparée à un coup d'État civil. Car si les autorités invoquent l'indépendance de la justice, il ne fait guère de doute que cette opération a été ordonnée par le pouvoir exécutif qui a réussi ces dernières années à prendre le contrôle de la magistrature. Le CHP appelle à voter massivement dimanche pour désigner Ekrem İmamoğlu comme son candidat à la prochaine présidentielle en 2028 au plus tard. Au départ, cette primaire n'était ouverte qu'aux membres du CHP, mais le parti a décidé d'organiser un second vote simultané, dit de solidarité, ouvert à tous les électeurs. Le but est d'afficher un soutien large, transpartisan à Ekrem İmamoğlu et d'envoyer un message fort au président Erdogan. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
L'armée israélienne annonce avoir tué cet après-midi le chef de la sécurité intérieure du Hamas à Gaza, d'où sont partis des tirs de roquettes sur Tel Aviv. Première riposte du mouvement islamiste aux opérations meurtrières de l'État hébreu sur l'enclave palestinienne ces derniers jours. Et les manifestations à Tel Aviv d'ailleurs continuent ce jeudi contre la décision de Benjamin Netanyahou d'avoir repris les combats brisant la trêve. L'offensive israélienne est en tout cas soutenue outre-Atlantique, annonce la Maison Blanche, le président américain ayant fait comprendre au Hamas, je cite, que s'il ne libérait pas tous les otages, il vivrait un enfer. Une migration, mais en sens inverse. Ces dernières années, la petite ville de Nekokli, sur la côte caraïbe colombienne, était devenue un point de passage obligatoire de la route du Darien. L'objectif des migrants, traverser la jungle, puis se diriger vers les États-Unis. Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Nekokli s'est vidée et les quelques migrants qui y passent cherchent à rentrer dans leur pays d'origine. Le reportage sur place de William Gazo.
Lorsqu'ils se hissent hors de l'embarcation, Al-Kheris a les traits tirés et la peau rougie par le soleil caribéen. « J'ai faim, je suis épuisé », lâche le Vénézuélien d'une trentaine d'années, qui a pris trois bateaux différents et payé 280 dollars depuis le Panama pour arriver à Nekokli. Pourtant, début février, Al-Kheris ne pensait pas se retrouver un mois et demi plus tard dans le petit port de pêche colombien. À ce moment-là, le jeune homme était encore à Tapachula, dans le sud du Mexique, avec un objectif en tête, entrer aux États-Unis. Mais le retour à la Maison Blanche de Donald Trump et la disparition de l'application de demande d'asile CBP One a mis fin à son rêve américain. Trump a fermé la frontière, il n'y a plus rien à espérer, tout ce que je veux c'est rentrer chez moi, raconte le Vénézuélien. Si aucun chiffre officiel n'existe pour le moment, les organisations humanitaires dénombrent plusieurs centaines de migrants sur le chemin de retour depuis la fin janvier. À Nekokli, deux ou trois bateaux arrivent chaque jour. Un changement radical pour la petite ville redevenue très calme et par laquelle transitaient plusieurs dizaines de milliers de migrants il y a à peine un an. Les personnes qui débarquent à Nekokli ne s'attardent pas et se dirigent le plus souvent vers les bus direction la frontière avec le Venezuela. Les passages vers le Panama ont, eux, diminué de 95% par rapport à l'année dernière. Nekokli, William Gazo pour Radio Vatican.
Les migrations régionales sont au menu de la rencontre des pays des Caraïbes convoquée par le Conseil épiscopal latino-américain et caribéen, actuellement réuni en République dominicaine jusqu'à demain. Au Vatican, en présence du cardinal Pietro Parolin ou de la reine de Suède, une conférence sur les risques et opportunités de l'intelligence artificielle pour les enfants vient de s'ouvrir alors que l'utilisation de matériel pédocriminel généré par l'IA explose. Pendant trois jours, une soixantaine d'experts sont réunis par l'Académie Pontificale des Sciences, la World Children Foundation et l'Institut d'Anthropologie de l'Université Pontificale Grégorienne, un institut dirigé par le père Hans Zollner. Il revient sur l'opportunité d'une telle plateforme de dialogue.
Et un convegno ovviamente rivolto in primo luogo al mondo scientifico.
Il s'agit bien sûr d'une conférence qui s'adresse avant tout au monde scientifique, aux chercheurs qui sont des experts de ce sujet qui a évolué ces dernières années. Mais nous voulions réunir aussi des représentants du monde politique, de la police et des victimes d'abus dans l'environnement numérique pour parler non seulement des idées, mais aussi de la réalité vécue et des possibilités réelles de promouvoir un espace sûr à l'ère numérique.
Et quindi è per noi un'opportunità di avanzare il dialogo dialogue.
C'est donc l'occasion pour nous de faire avancer le dialogue, sans vouloir condamner qui que ce soit. Il y a des opportunités positives, mais nous devons être très conscients que chacun a une certaine responsabilité. Et cela vaut d'ailleurs aussi pour les familles. Les parents ont également la responsabilité d'éduquer à l'utilisation appropriée de ces outils.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute et fidélité à notre antenne. Prochaine édition demain matin à 8h30. Très belle soirée.